Radio Capi, Grand Cœur. Il est professeur d'université, ancien président de l'Assemblée régionale du Kivu, ancien ministre, actuellement député national et administrateur à l'Institut national de sécurité sociale, comme Sekimonyo Wama Gango et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Professeur, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup.
Alors avec vous dans notre entretien, comme c'est le principe dans cette émission, nous parlerons de vous, de votre parcours professionnel et politique, mais nous placerons aussi un mot sur l'actualité, aussi sur l'indépendance, le 51e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Avant tout cela, commençons par une petite biographie de vous. Vous êtes né un certain 20 octobre 1944 à Kamira, dans le Nord Kivu.
Oui, bien sûr.
C'est là où vous passez votre enfance?
Mon enfance. Donc, jusqu'à 6 ans.
À 6 ans pour aller où après?
Mon père, c'était un enseignant catholique. Et les enseignants étaient soumis à ces années-là aux déplacements. Toutes les deux années, il y avait des mutations des enseignants. Et c'est ainsi qu'avec mon père et ma mère et mes frères, nous avons, je crois, changé d'habitation 5-6 fois.
Vous êtes allé dans quelle province? Vous avez quitté le Nord Kivu pour aller?
Dans la même province, dans le même territoire, mais à des villages différents.
Ah, d'accord. Alors, quel souvenir vous gardez de cette enfance dans le Nord Kivu?
Cette enfance, je garde un très bon souvenir. Parce que le déplacement de ma famille m'a permis d'être en contact avec beaucoup d'enfants de tout genre. Et cela m'a permis aujourd'hui d'avoir une flexibilité politique et sociale qui m'aide beaucoup dans ce que je fais.
Professeur Sekimonyo, vous êtes marié et père de combien d'enfants?
De 9 enfants.
Vous êtes licencié en pédagogie de l'Université de Lovanium et vous avez aussi un master en éducation de la Florida State University. Pourquoi ce choix de la pédagogie?
La pédagogie, parce que j'avais fait les humanités pédagogiques. Et à ce moment-là, c'était presque automatique. C'est qu'on a été, comme collégien, déterminé beaucoup ce qu'on allait devenir à l'université. Je suis donc allé faire la pédagogie à l'université. Et après cela, je suis devenu assistant à l'université parce que j'avais terminé avec distinction. De là, j'ai eu une bourse pour les États-Unis. J'ai fait deux masters, un master en éducation et un master en démographie. Uh-huh. J'ai continué le doctorat en éducation. Je suis donc docteur, ce qu'on appelle aux États-Unis, PhD, avec un diplôme de haute études en démographie.
Alors, parlons de la démographie, vous êtes professeur de démographie. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire de la démographie? C'est quoi la démographie?
Pour les profanes, la démographie, c'est une science qui nous permet de comprendre les problèmes d'une population. Voilà, en très peu de mots. Les problèmes d'une population, les problèmes essentiels, c'est que nous savons comment on vit au monde. Nous appelons ça la natalité. Beaucoup d'enfants qui naissent. Ce sont ceux-là qui nourrissent les mouvements démographiques. Ensuite, il y a des gens qui meurent de ces naissances, de ces morts-là. Vous avez les bilans. La différence entre la naissance et le décès, vous avez un changement, un mouvement naturel. Mais il n'y a pas que cela. Il y en a qui viennent des immigrants et il y en a qui partent des immigrants. Donc la démographie étudie le contexte de tout ça, la symbiose de tous ces facteurs-là, la population, les naissances qui s'ajoutent, les décès qui en sont soustraits, les immigrants et les émigrants.
Alors, vous faites aussi des études sur la population congolaise?
Mais oui. Alors, maintenant, vous me forcez à aller plus loin dans la définition. C'est qu'on n'étudie pas c'est les massas, mais on étudie ces facteurs-là en relation avec les autres facteurs de la vie. Par exemple, vous êtes une maman, on peut étudier les niveaux d'éducation et combien d'enfants vous avez. Et voir s'il y a une influence entre l'éducation et le nombre d'enfants. On peut aller plus loin, on dit, vous, en tant que journaliste, le travail de journaliste vous permet-il d'avoir beaucoup d'enfants? On trouvera que non, certainement non, qu'il y a une relation négative entre le travail et le nombre d'enfants.
La démographie se limite seulement à l'étude de la population sans proposer des solutions?
Oh non, on les fait pour proposer des solutions justement. Pour la population, on ne l'étudie pas comme ça. Non, on l'étudie pour arriver à des solutions.
Professeur, il y a eu une explosion quand même de la population congolaise. Hein. Si on compare la population congolaise qu'on avait en 60 et actuellement, il y a eu une grande explosion démographique. Mmh. À quoi attribuez-vous cela?
Comme je vous ai dit, la population c'est quoi? C'est la population que vous avez, plus les naissances, moins les décès, plus les immigrations, moins les immigrations. La population accroît. Si vous mettez l'immigration dehors, elle accroît parce que la natalité, le nombre d'enfants qui sont venus, dépasse de loin le nombre de ceux qui sont morts, toutes les catégories confondues. Alors, avec depuis 60, il y a eu quand même amélioration, un temps soit fait, de la santé de la population. Il y a eu moins de décès, la mortalité a baissé. Et quand les femmes sont en une meilleure santé, si vous ne mettez pas les femmes du plan ingrat, la femme tendra à avoir plus d'enfants. Alors, donc, le nombre d'enfants par femme a augmenté et le nombre de décès par famille a baissé. Ce qui a fait que le taux d'accroissement, c'est la différence entre les deux, entre ceux qui viennent et ceux qui partent. Le taux s'est amélioré. Et ce taux a provoqué, il n'y a pas seulement au Congo, il a provoqué ce qu'on appelle l'explosion démographique.
Alors, cette explosion aussi entraîne des conséquences quand même, parce que les infrastructures n'ont pas suivi cette explosion démographique.
Ouais, ouais, c'est difficile, parce que pour que les infrastructures suivent, il faut que la venue au monde des êtres et le décès, le R, la soit inférieure au taux d'accroissement d'une économie. Voilà. Mais il est arrivé depuis 60, il est arrivé que notre économie monte un peu, mais la plupart des fois, notre économie n'a fait que descendre. Alors vous voyez, une économie qui se ratatine devant une démographie qui s'amplifie, la conséquence évidemment, c'est qu'on peut servir de moins en moins l'individu. Maintenant évidemment, il y a un redressement. Pour ceux qui suivent l'évolution économique du pays, il y a un redressement. Vous sentez qu'il y a retour au taux acceptable. Maintenant, il faut que nous l'accompagnions avec un taux d'accroissement de la population qui t'a diminué, parce que nous avons un taux d'accroissement total de 3%. Alors, quand vous avez 3% en permanence, là, ça signifie qu'en 22 ans, vous doublez la population. Mais si vous doublez la population sans avoir doublé les revenus, vous tombez dans la pauvreté. Il y a aussi un problème de recensement, parce que nous ne nous sommes jamais recensés. On dit 14 millions. Oui, ça c'était bien recensé, mais maintenant, il y en a qui disent 70 millions, 75 millions, 80 millions, 60 millions. Il y a une hiatus de données, et j'en profite ici pour dire, madame, que tant que nous n'aurons pas recensé la population, tant qu'on sera contenté de recensement administratif, tant qu'on ne saura pas combien nous sommes, nous aurons difficile à nous développer.
Alors, professeur, on va enlever cette casquette de professeur pour parler de votre vie politique. Comment vous vous retrouvez dans la politique comme Sikimunyu Wamagango?
Bon, me retrouver dans la politique, c'est peut-être difficile, une question difficile à répondre. Mais c'est depuis, je crois, l'école secondaire. Vous savez, politique, ceux qui aiment la politique, ce sont déjà qui vont pour gouverner, pour avoir le pouvoir. Vous les constatez déjà depuis l'école primaire, chef de classe. Vous avez terminé l'école primaire, j'étais chef de formation de toutes les années. Vous les constatez à l'université, c'est quelqu'un au type de petites fonctions universitaires, mais politiques. À la tête d'une association, à la tête, par exemple, à l'université, j'avais une association qu'on appelait les Sekki Amitié. Donc, il y a déjà qui croyaient en Sekki Monyo, nous avons créé une association des Sekki Amitié. Les gens qui sont d'obédience à Sekki Monyo. Quand j'ai terminé l'université, bien sûr, bon, il y a eu, ça a commencé à s'exprimer. J'ai terminé PhD. Lorsque je suis arrivé ici immédiatement, j'ai trouvé qu'à l'Assemblée provinciale du Kivu, à l'Assemblée régionale, le président n'était plus là, il y avait un hiatus. Bon, les politiciens d'alors qui estimaient qui il faut faire président de l'Assemblée ont estimé que c'était moi. Des raisons.
Pourquoi vous?
Bon, des raisons, ils ne font pas me les demander. C'est plutôt.
Vous n'étiez pas à l'Assemblée?
Je venais d'arriver des États-Unis. Ouais. Et le président de l'Assemblée régionale de Kivu avait des problèmes. Il avait été presque mis de côté. Et il fallait chercher quelqu'un pour les remplacer. Les politiciens d'alors, membres du comité central, membres du bureau politique, etc. Ce sont les limites pour trouver quelqu'un.
Vous étiez membre du comité central?
Non, je n'étais ni membre, j'étais professeur.
Vous avez été parti quand même du comité central?
Oui, après. Oui, voilà, je voulais dire. Alors, ils se sont réunis, ils ont constaté, ils ont fait une analyse qui a abouti à ce que c'est moi qui devais aller là-bas. La première, le premier critère, évidemment, c'est que l'ancien président était de Rousseau, je suis de Rousseau. Mais les autres critères, je ne les maîtrise pas.
C'est... Vous n'avez jamais posé la question de savoir pourquoi le choix sur moi?
Non, ça ne valait pas la peine. Je n'avais pas le temps vraiment pour faire ça. On vous dit, président de l'Assemblée, vous allez encore dire pourquoi. Il y a de bonnes raisons.
C'est le poste qui vous intéressait?
Ça doit être... Non. J'ai évité d'ailleurs avant d'aller, parce que je voulais donner cours à Kinshasa. Mais ils m'ont convaincu qu'il faut aller là-bas pour la population du Kivu. Bon, je suis allé là-bas, j'ai fait longtemps président de l'Assemblée provinciale.
Plus de 5 ans?
Oui, plus de 5 ans, président de l'Assemblée provinciale. Et alors, il y a eu la scission du Kivu. Kivu Nord, Kivu Sud et le Maniema. Je suis presque parmi les gens qui ont initié cette expérience-là. Parce que je voyais à Bukavu déjà venir de Maniema pour un petit dossier. Par avion. Je voyais déjà venir des bénis pour des petits dossiers. Non, je me suis dit, je m'implique. Il y a des gens qui ont commencé. Mais comme j'étais président de l'Assemblée, j'étais la tête de file. Et nous sommes arrivés à convaincre le président de la République, Mobutu, hein, de scinder. Ne plus qu'à titre d'expérience pour voir ce que ça donne. Et aujourd'hui, ni la population du Nord, ni celle du Sud, ni celle du Maniema, ne le regrette pas. Et alors, au comité central, à un moment donné, vers la fin du règne de Mobutu, il a senti qu'autour de lui, il y a trouvé des gens qui le trompaient. Voilà ce qu'il nous a dit quand il nous a appelé. Autour de moi, j'ai senti un vide. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à vous. Il a organisé des élections. Il a dit, au lieu de nommer les membres du comité central, organiser des élections au niveau de la base. Il a organisé les élections. J'ai été 4 personnes par province. J'ai été élu, je suis venu au comité central. Heureusement, parce que j'ai découvert cet organe avant que tout ne soit bousculé, parce que ça m'a appris beaucoup comment les politiciens autour de Mobutu se comportaient. J'ai compris un peu pourquoi aussi. Il y avait des erreurs, il y avait. Voilà.
Et vous avez travaillé facilement avec le maréchal Mobutu?
Ça n'a pas duré, mais la première constatation que j'ai faite, c'est que nous, les nouveaux, on avait tendance à poser des vrais problèmes. Et les vieux venaient nous dire, attention. Nous avons constaté qu'à un moment donné, lorsqu'un pouvoir dictatorial a fait longtemps, il n'est plus nourri de bonnes idées, c'est-à-dire on vient le flatter, on vient lui dire tout ce que lui attend qu'on lui dise, et lorsque vous essayez de dire voilà ce qui ne va pas, ah non, vous devenez ennemi, et c'est la raison pour laquelle vous voyez, il a fait le tour de la République lui-même, il était surpris qu'il était plus populaire, que tout le monde disait vous êtes mauvais, il est venu, il a créé un mouvement qui a précédé la démocratisation. Nous, on lui disait, il ne croyait pas, parce qu'il y avait d'autres qui lui disaient « Vous êtes les meilleurs ».
Alors, professeur Sekimonio, vous avez été aussi ministre, oui. Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire.
D'abord.
Et puis ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Oui. Vous avez été révoqué du gouvernement, pourquoi? Parce que vous étiez ministre de l'enseignement primaire.
Okay. Quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur, j'étais à la tête d'un parti, la démocratie pour le salut national. Il est arrivé le débat sur la souveraineté de la conférence nationale. Est-elle souveraine ou non? Nous sommes de ceux qui étaient des ministres, mais qui pensaient que le mot souverain ne nous gênait pas et qu'on n'avait pas convoqué une rencontre de la population pour une autre conférence. Il paraît que les décisions de la conférence concernent tout le monde. Et c'est ainsi que je suis l'un des ministres dont les partis ont pris le discours devant tout le monde pour dire cette conférence est nationale. Elle n'est pas, seulement nationale, elle est souveraine. Sachant qu'à ce moment-là, les dirigeants qui ne voulaient pas entendre de la souveraineté de la conférence, ils ont décidé que les ministres qui avaient d'autres partis avaient fait ces déclarations là-bas rentrent à la conférence nationale. Et nous y sommes rentrés. C'était
comme ce qui m'a dit, comment signifie quoi?
Comme ce qui m'a dit, bon, c'est un nom que l'on donne, mais ce qui m'a dit, c'est quoi?
Comme c'est un prénom?
Oui, c'est un prénom. Quand je suis né, papa, bon, comme Damien, c'était un enseignant. Et souvent, ils allaient dans la Bible consulter. Il a certainement vu comme, parce qu'après moi, c'est Damien. Comme et Damien, c'était des frères. Et il a réalisé son ambition aussi, en ayant un comme et un Damien.
C'est Kimonio?
Mais Kimonio, c'est plus compliqué. Chez nous, il y a des noms à signification. Presque tous les noms ont une signification. Ça peut être une signification par rapport aux événements. Ça peut être une situation par rapport à l'événement de naissance. Donc, le mien, c'est un nom par rapport à l'avènement de ma naissance. Et vous savez, dans les villages, il y a ce qu'on appelle des fourmis. Il arrive que ces fourmis attaquent la maison. Et moi, quand je suis né, ces fourmis avaient attaqué la maison. Ces fourmis, dans ma langue, c'est Kimonio. Kimonio, la fourmi jaune là. Et comme je suis garçon, Les garçons, le nom commence par le principe, c'est C, S, F, C, Kimonyo. Donc l'enfant qui est né, l'enfant, le garçon qui est né, quand la maison était attaquée par les fourmis. Ça, je ne sais pas, mais quand ils envahissent la maison, hein, j'ai pu avoir été les lignes de leur croix. Bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas m'en sortir, je ne pouvais pas m'en rendre compte. Mais c'est que je suis né quand même à une mauvaise circonstance, parce que quand ils attaquent, il faut la pagaille, il faut les brûler. Et voilà comment je m'appelle effectivement.
Alors, je viens de l'âge d'elle, vous êtes allé en exil.
Le même jour où je suis allé à Brazzaville.
Pourquoi vous êtes parti?
Ah ben, écoutez, il y a des gens qui venaient et vous ne saviez pas, et nous ne les connaissions pas. Et c'est nous, on disait, attention, ils vont faire ça et ça. Je suis de ceux qui sont allés à Braza. Après, quand je suis rentré, j'ai trouvé que non, il y avait eu plus de mal, de peur que de mal. Et c'était déjà comme nous, etc. Bon, et j'ai vécu avec eux. J'ai même travaillé avec certains de leurs leaders au niveau de la sécurité. Je ne citerai pas les noms, mais j'ai travaillé dans les services de la sécurité de l'AFDEL. Mais en 2000, je suis tombé malade et les médecins de Kinshasa ont estimé qu'il fallait aller dehors. Mais comme j'avais étudié aux États-Unis et que j'avais des enfants là-bas qui sont américains parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont simplifié l'affaire et je suis allé me faire soigner aux États-Unis.
Tous vos enfants sont nés aux États-Unis?
Non, il y en a deux qui sont nés aux États-Unis. Et une fille qui est mariée aux États-Unis aussi, avec un Congolais du Kassai, et un garçon, mais qui lui préfère encore rester là.
Professeur, c'est que moi, en 2006, vous êtes élu député national, élu de retour ou avec beaucoup de voix quand même. Vous êtes notable.
Je suis un notable, j'étais élu avec 70 000 voix.
Parlons de la situation insécuritaire dans les Nord, qui vous, en tant que notable et élu de cette province, plus précisément de retour, quel est votre rapport par rapport à l'amélioration de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu?
Ok, merci beaucoup. D'abord, je vais vous dire comment ça va maintenant. Vous savez que pendant un temps, il y a eu une guerre civile au Nord Kivu. Et cette guerre civile avait comme foyer, entre autres, Rutshuru. Il y a d'autres territoires qui étaient concernés. Mais Rutshuru a vécu cette réalité plus que certains autres territoires. Actuellement, je dois vous dire que les choses ont changé. Il n'y a plus de guerre civile. Donc, les Congolais qui se battent officiellement, formellement, il n'y en a plus. Donc, Rutshuru ne connaît plus de guerre. Mais.
Et c'est pour la sécurité, son bien.
Oui, voilà justement la conséquence. Il y a deux phénomènes dans Rutshuru, dans ma société au nord. Le premier, c'est qu'il comprend être psychologue, grand psychologue, pour savoir que des jeunes gens qui ont vécu des moments de guerre, qui ont vu des gens tués, et qu'ils vont rompre avec cette vie, il suffit de siffler et puis c'est fini. Non. Les comportements des enfants est fortement marqué par ce qu'ils ont vécu pendant la guerre. Il y en a qui ont vu le pillage, il y en a qui ont vu le viol, il y en a qui ont vu toutes sortes de mots. Et lorsque la guerre se termine, certains comportements restent. Certains d'agressivité, tendance à l'autodéfense, tendance, et surtout que cette guerre a créé beaucoup de pauvreté. Alors cette pauvreté fait que, bah, tout ce que vous n'avez pas à manger, il est normal qu'on vous trouve en train de chercher à manger ailleurs. Et si vous ne trouvez pas à manger et que vous avez faim, et que vous avez une arme, c'est facile à dire, je prends mon arme, je cherche à manger. Donc, il y a ces comportements-là d'après la guerre. Mais aussi, il y a encore de groupes armés nationaux. Donc, il y a des anciens militaires qui ne sont pas encore intégrés. Ils sont en voie de l'être progressivement. Mais le troisièmement, il y a des groupes armés extérieurs, donc de la guerre du Rwanda. Ils se sont battus, il y en a qui ont fui, qui étaient armés, etc. Il y en a qu'on a dit des génocidaires. Et ils sont aussi à Rutshuru. Et vous voyez, ces gens-là ne cultivent pas, parce qu'ils ne peuvent pas être stables. Ils ne peuvent pas être stables, ils ne cultivent pas. Ils vivent de quoi? Ils vont dans les puits des minéraux, chercher des minéraux. Mais les minéraux, on ne les mange pas. À un moment donné, il faut chercher à manger. Donc ces gens attaquent pour piller. Il y a l'effet de l'après-guerre, le comportement que cela a créé. On ne peut pas avoir d'un coup, comme par miracle, un changement de comportement, un changement de mentalité et une paix durable, non. Il faudra que nous puissions travailler. Alors, le rôle du député, ça a été quoi? Pendant tout ce temps qu'il y avait guerre, le député, c'est un parlementaire d'abord. Et c'est le député du Nord qui joue. Je suis le président du caucus, le doyen. Et nous avons travaillé beaucoup. Nous avons travaillé beaucoup pour apprendre aux autres ce qui s'est passé chez nous. L'exécutif national, le parlement lui-même, les ambassadeurs, parce qu'à ce moment-là, on dépendait, il y avait des corps, il y avait des ambassadeurs qui avaient mission, en fait, de se mettre au-dessus de nous, la CIAT, et nous avons travaillé pour annoncer, pour informer. Et ça, c'est vraiment à mettre à notre crédit. Et il y en a même qui, à un moment donné, ne savaient plus parler au Parlement. Ah, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Nous avons persisté jusqu'aujourd'hui. Alors,
c'est le résultat de tout le travail que vous avez fait.
Ok, le résultat, c'est que, deuxièmement, il n'y a pas qu'annoncer, mais nous sommes aussi allés à la base. Où nous avons essayé de faire comprendre la population qu'il est inutile de se battre, c'est inutile de se mettre à l'abri de ce que tous les Congolais veulent et d'aller servir l'ennemi pour pouvoir l'amener à conquérir, que ce soit un ennemi interne, c'est-à-dire congolais, que ce soit un ennemi extérieur. Là, nous sommes entrés en contact avec toutes les couches de la population. Et je suis sûr que, je vous l'ai dit, certaines de nos actions ont eu des répercussions positives, dans le sens où la population a compris qu'il fallait se désengager, qu'il fallait ne pas suivre la mauvaise voie de ceux qui veulent les troubler. Troisièmement, il y a des députés qui le peuvent, qui aident maintenant matériellement. Donc, dans les camps militaires, dans les camps de déplacés plutôt. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'amener des haricots, d'amener des vivres. Il est arrivé, par exemple, qu'il y a eu un barrage qui a été isolé.
C'est à vous de faire ça, honorable
président. Je vous dis ce que nous avons fait. Mais qu'est-ce que nous devons faire en fait? Qu'est-ce que nous devrions faire? C'est ce que nous avons fait. Parce qu'on dit les députés annoncent seulement pour défendre au micro. Non, non, non. Nous devons nous adapter, madame. Ça, c'est la définition classique, hein, où il n'y a pas de problème sur le terrain. Mais quand vous avez des problèmes sur le terrain, au-delà des parlementaires, il faut aller sur le terrain pour résoudre.
Alors, tout ce que vous faites là, vous résolvez ce problème au nom de Comte Kimono comme député national, ou vous le faites au nom de votre appartenance politique, parce que l'exécutif n'est pas en mesure de le faire, moi je veux le faire.
Donc, non, voilà, il y a trois catégories d'actions que nous faisons. En tant que notable, indépendamment de tout le reste, nous sommes chargés de défendre la population et même de descendre auprès de la population et de l'aider. En tant que membre d'une idéologie, nous devons apporter cette idéologie. Par exemple, je vous dis, le livre que j'ai amené, c'était le président de l'Assemblée provinciale nationale qui m'avait chargé de le faire. Là, on le fait en tant que membre d'un caucus, membre d'un parti ou d'un gouvernement de parti. Mais il y a aussi des actions, et ça c'est constant, que nous faisons au niveau de l'instance la plus élevée, le président de la République. Parce que le président de la République, il faut aussi l'aider. Vous savez, il n'a pas les mains pour arriver à toutes les bases. Mais des personnes comme moi, qui savons ce qu'il pense, et ce qu'il aurait souhaité qu'on fasse, on le fait à son nom. Dernièrement, à Goma, je suis allé à son nom pour calmer la situation. Là, ce n'était pas mon initiative, bien que j'en étais très, très, très fier. Il fallait que je le fasse. Mais c'est le président de la République qui a dit, vous êtes notable là-bas, allez calmer les jeux. Je suis arrivé.
On vous comprend facilement, la population vous comprend facilement, comme c'est tout le monde.
Oui, 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 je crois que je communique bien avec la population.
Vous croyez, vous n'êtes pas
très sûr. Ah oui, oui, ça serait mauvais de dire, je suis sûr. Vous savez, quand vous avez des interactions pareilles, vous ne partez que sur base d'hypothèses. Lorsque vous dites, je suis sûr, non, non. Ça, c'est une arrogance, c'est une affirmation qu'il ne faut pas entretenir ici à la radio. Pour dire, je suis sûr que non, vous avez l'impression d'être suivi. Il y en a qui ne me suivent pas, il y en a qui n'aiment pas me suivre. On ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut faire qu'un consensus. Donc, le suis persuadé, nous avançons même l'argumentation que lorsque je parle, je suis suivi. Oui.
On aura les élections, de nouvelles élections en 2011, dans quelques mois. Vous avez l'ambition de vous représenter à la députation?
Oui, j'ai l'ambition de me représenter, mais actuellement, je suis préoccupé par autre chose. Vous savez qu'avant les élections, il y a l'enrôlement d'abord. Et dans plusieurs coins de mon territoire, et même de ma province, il y a des points qui ne sont pas encore couverts par l'enrôlement. Pas par la faute de la population, pas par la faute de la CEI ou de la CENI, mais par le fait que les moyens n'ont pas permis d'avoir suffisamment de bureaux d'enrôlement et que la population y aille. Vous savez, nous avons 44 bureaux d'enrôlement d'Arusso, près d'un million d'habitants. Et les nombres ne suffisent pas. Mais alors, il se fait qu'aussi la CENI a vraiment réparti ce nombre de 44. Il a fallu se battre pour que ce nombre soit mieux réparti. Nous l'avons fait, il y a 19 kits que nous avons placés d'un endroit à des autres, plusieurs autres endroits. Mais nous l'avons fait 45 jours après. Ça signifie que le territoire de Rousseau a perdu un mois. Il a pas remis les
personnes. Vous avez un peu peur.
Peur. que certaines populations ne puissent pas avoir accès à ces droits-là de lire. Parce que s'ils ne sont pas enregistrés, ça devient un problème. Bien sûr, on peut dire ça pèse de moins de députés, etc. Mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois plutôt une population qui n'aura pas à exercer un droit fondamental s'il n'a pas sa carte. Deuxièmement, je vois une population qui, dans l'insécurité dont nous venons de parler, n'a pas si aller régulièrement au bureau de vote, donc qui sera pénalisé. Je vois surtout une population frontalière qui va ne pas avoir des cartes de citoyens, des cartes d'identité, au moment où nous savons qu'il y a des échanges maintenant de plus en plus vers l'Ouganda, vers le Rwanda, les personnes qui vont là-bas, d'autres qui en viennent. Et vous savez que notre pays est souvent victime d'immigration, donc des gens qui viennent. S'ils savent qu'il y a des gens qui n'ont pas de cartes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de venir chez nous, dès qu'on vous l'appréhende, dit « je suis un Congolais, mais je n'ai pas de cartes ». Comment vous n'avez pas de carte, vous voyez, je n'ai pas été enrôlé, je n'ai pas de carte. Donc, nous courons beaucoup de risques, c'est la raison pour laquelle presque chaque jour, je suis à la CENI, pour leur dire, il faut une prolongation.
Mais la CENI, a accordé 10 jours de plus.
10 jours, je suis en train de dire 10 jours, ça sera fait, je réclame un mois.
Mais un mois, ça risque d'avoir des lieux sur le calendrier électoral.
Oui, c'est ça, ils me le disent, mais vous savez, quand vous demandez quelque chose, hein, 10 jours, ça ne sera pas suffisant.
Mais c'est un mois que vous demandez, parfait. Après un mois, vous allez demander encore des jours supplémentaires.
Voilà. J'ai pourvu que mon objectif soit atteint. Donc, je souhaiterais quand même, disons, un mois et 10 jours, c'est peut-être pas assez là qu'il faut tenir. J'ai dit à ce que toute la population.
C'est pas s'enrôler.
À Dieu qu'il soit pas enrôlé. Parce que si il ne se fait pas enrôler, c'est beaucoup de droits qu'on lui aura privés. Mais surtout, c'est beaucoup de risques. C'est-à-dire que dans les échanges que nous faisons avec l'extérieur, il ne pourra pas traverser. S'il a besoin d'un article en Ouganda ou au Rwanda, il ne pourra pas y aller. Et surtout, quelques autres peuvent venir chez nous et dire nous sommes des Congolais, nous n'aurons pas de preuves à les reposer qui ne le sont pas.
Alors, professeur, comme c'est Kimoyo, un mot par rapport au 51e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Je crois que moi, c'est moins vivant parce que j'étais encore enfant, mais je comprenais. Quand nous avons acquis l'indépendance, tout le monde était content. Je voyais beaucoup de gens de chez moi qui étaient contents. J'avais des parents qui étaient de chez moi, qui sont devenus des députés, des sénateurs, des ministres, ils étaient contents. Mais pendant un temps, on a déchanté. L'indépendance est devenue symbole de nuisance, de souffrance. Et maintenant, depuis un certain nombre de années, surtout l'année passée, nous avons constaté que la journée de l'indépendance a été une journée de résistance. Cette année, encore plus, l'indépendance est en train d'être accompagnée par des résistances. Donc, ça signifie que l'hystérie, ça signifie que les frustrations que nous avons vécues sont en train d'être petit à petit. Et parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il y a une différence entre ces années ici et les années passées. Nous sommes entrés vers le bon.
D'aller vers le bon.
Oui.
Donc, la RDC, si on vous demandait de dresser un bilan, vous direz que le bilan est positif, on est en train de progresser.
Quand je dis positif, évidemment, les gens vont dire non. Voilà, le dernier mot. Donc, nous sommes en train de quitter la ville. Où est la ville, là, les grands trous? Nous sommes en train de sortir de là. On n'en sort pas rigolant parce que c'est pénible, on a des souvenirs. Mais on dirait que nous sommes en train de sortir de la ville.
La mentalité des Congolais a changé.
Ah oui, la mentalité des Congolais a changé. Vous savez, c'est que depuis le Nantes, que nous sommes en train d'expérimenter la démocratie. Vous savez, le premier jour de la conférence nationale, vous savez ce que c'était. C'est la démocratie signifiée, le chaos, etc. Maintenant, de plus en plus, les gens se battent pour le pouvoir. Ils ne se battent plus pour régler des comptes, pour des petits comptes. Les gens se battent pour le pouvoir. Et c'est ça la démocratie aussi, un aspect de la démocratie. C'est de dire, je vais gouverner. Et on vous dit, vous ne pouvez le faire que par les urnes. Et il y a beaucoup de gens qui sont maintenant en train de se préparer pour les urnes.
Comme c'est que nous sommes à la fin de notre entretien, 30 minutes, ça passe trop vite.
Un mot
à tous les auditeurs qui nous suivent sur Radio Kaki à partir de Rutshuru, dans votre circonscription électorale. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui?
Au Rutshuru, je voudrais dire que j'étais content d'apprendre que nous avons une prolongation de 10 jours. Bien sûr, vous savez que c'est Kimono comme est en train de réclamer, moi, mais vous avez senti que la journaliste avec laquelle je suis m'oppose le calendrier. C'est effectivement un problème technique qui s'oppose à la CENI. Comment prolonger sans enfreindre au calendrier? Mais ces 10 jours-là, mes amis de Rutshuru, je vous demande d'aller encore plus nombreux qu'avant. Je demande surtout à ceux qui sont en charge des bureaux d'agrément d'aller rapidement à son agent de saisie, parce que j'ai constaté qu'il y a des agents de saisie qui sont là, au président. Donc, allez très rapidement vous faire enrôler pour la population, mais aussi ceux qui gèrent le bureau d'arrondissement, ceux qui luttent votre travail.
Je crois que le message est passé, c'est aussi votre rôle de sensibiliser la population à aller se faire enrôler, comme ce que Monio, je vous remercie encore une fois.
Merci beaucoup, madame.
Je rappelle que je recevais pour vous, comme ce que Monio, professeur d'université, ancien président de l'Assemblée régionale du Kivu, ancien ministre, actuellement député national et administrateur à l'Institut national de sécurité sociale. INSS, merci à Alain Goy qui était à la technique au micro, qui l'a écouté. Vous trouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Voici le programme sur la fréquence de la paix et bon dimanche à tous.